Morin.
Ça va bien aller?
Live.
Toujours.
En vacances.
Ouais. Ça va bien aller?
Live.
Radio.
OK. Breaking news, Max fait dire que Jenny Bouchard a des photos de vacances sur Instagram.
Ouais, mais regarde.
Elle a du très beau contenu.
Oui, c'est des photos de vacances.
Ben, c'est des photos de paysages, honnêtement, que moi, je regarde, des destinations voyages que j'aimerais peut-être un jour visiter. C'est fabuleux.
Bien oui, Maxime, bien oui.
Ça donne des idées.
Vous l'avez entendu, la promo ce soir au Festival d'été de Québec, Gwen Stefani. Je pense que c'est un show quand même assez attendu. On va aller faire un tour là, du côté des plaines. C'est Nate Smith qui sera sur l'autre scène. C'est un chanteur, j'imagine, country.
Ouais. Pop.
Donc,
Country rock, quoi. Ouais.
Country Rock, c'est une grosse soirée, encore une fois. Il va faire beau. Soyez-en en grand nombre du côté du Festival d'été de Québec. Puis rapidement, si on se parle de circulation, ben si c'est jaune-orange, c'est compliqué. C'est vraiment les travaux qui rendent ça compliqué. Pour le reste, ça va somme toute assez bien ce matin dans la grande région métropolitaine de Québec à 8h18. Allons rejoindre Nick Payne! Nick Payne qui sera de retour également. Vous l'avez entendu avec Moret tantôt qui sera de retour la saison prochaine. Comment ça va, Nick?
Fantastique. Ben oui, ça va, vous autres. Yes. J'espère que Metallica, là, je fais quoi, moi, s'ils m'appellent pour avoir le chèque, là? On n'a jamais parlé de ça.
Non, jamais. Ben, en fait, c'est Three Days Grace. Mais écoute, on leur donne le chèque. Il est payé avec la soccer.
OK, là, c'est bon, c'est parfait.
Réglé. Bon. On est membres quand même, là. On les donne les royautés. On est,
OK. Ben non, mais je m'en
quand même,
les affaires.
On est quand même des gentils garçons.
Oui, mais toi, je sais bien.
Mais Nick Payne, toi, tu reviens avec le retour de Montréal au mois d'août. Faut dire également que tu vas garder le nom de Nick Payne. Tu changeras pas de nom, là.
Moi, je change pas de nom. Mon logo non plus, là. J'ai pas de logo, à bien
non,
y penser.
Non, c'est
mais,
ça qui arrive.
Non, ma marque de commerce est enregistrée. Écoute, c'est déjà assez cher demain. Moi, pas moi quand commencer à changer de nom en plus.
Mais Christine, elle, ma tante Christine, a décidé que la CAQ allait changer de nom.
Le nom, le logo... moi, je trouve que ça... Tu sais, on a tous très, très bien compris, là, que l'idée ici, c'était d'effacer le passé pour repartir en neuf. Hein? On passe la brosse sur le tableau. Les erreurs de la CAQ, c'est du passé. On arrive avec une nouvelle philosophie. On a fait tellement d'affaires depuis le printemps que finalement, on est dans un autre monde avec un autre gouvernement, d'autres politiques, une autre vie. Et puis, c'est merveilleux. Je comprends que pour le moment, les sondages montrent une petite embellie. Ça va mieux que sous Legault pour la CAQ, mais c'est quand même pas non plus le Pérou, là. Et à un moment donné, il y a des limites à dire au monde que ton propre bilan et ton propre parti sont pas montrables. À un moment donné, l'électeur va en tirer des conclusions. Il va dire, OK, ces gens-là font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on oublie ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont été. Ben, on n'est pas complètement cave, puis on s'en souvient. Puis s'ils veulent à ce point-là qu'on s'en... souviennent pas, ça doit être parce que c'est assez... On a raison de trouver que c'est pas bien bon. Je trouve que là, ça va loin. On est en train de transformer la CAQ. Et là-dessus, d'ailleurs, je trouve que les caquistes réfléchissent pas beaucoup. Tu sais, un parti politique, ça veut aussi s'inscrire dans le temps, dans l'histoire, avec des méthodes, des traditions, un bilan qu'on assume. Et là, Christine Fréchette est un peu en train de faire de la politique municipale. Tu sais, ça se passe comme ça au municipal. Le maire s'en va, le dauphin arrive, change le nom du parti, ça devient équipe machin truc. Finalement, la continuité se perd un peu dans le temps. Puis, tu sais, on est au municipal et bon, on va être dans la collecte des ordures et puis l'entretien de l'aqueduc. Et puis, c'est pas si grave que ça. Mais pour ce qui est des caquistes, je trouve qu'ils sont. Ils jouent un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'ils pourraient, en s'effaçant comme ça, effacer le peu de racines et d'existence dans le temps qu'a commencé à construire la CAQ.
Ouais.
Je pense qu'on c'est une sorte de pacte qu'on signe. Là, on prend le risque de faire ça tellement on veut gagner la prochaine élection. Mais peut-être que le jeu n'en vaudra pas la chandelle pour eux.
Puis il y a des magasineux aussi, Nick. Tu sais, on regarde la CAQ, eux autres, ils vont chercher le monde là, dans leur staff. Mais il y a de plus en plus de magasineux. On sent que les gens veulent faire de la politique, on s'en fout du parti. On y va le premier venu.
Oui, écoute, alors là, on parle de Mme Caroline De Geer, économiste, qui était membre et donatrice du PQ. Elle faisait des dons encore en janvier 2026, il n'y a pas très longtemps. Et là, elle va se présenter pour le Parti libéral dans Laval-des-Rapides. Laval-des-Rapides, là, c'est un endroit à Laval qui subit une transformation démographique là, draconienne. Là. Jamais vu dans notre histoire, là. Bernard Landry a déjà été député de ce coin-là, et là, désormais, ouais. Ça devient un château fort libéral ou au minimum caquiste. Là. Les péquistes ne peuvent plus vraiment gagner là. Et donc, Mme De Geer a fait le grand écart. Hein, elle passe du moins, là, en regard de la question nationale, elle passe du blanc au noir. Là, du PQ au Parti libéral ou du noir au blanc, voyez-le comme vous voudrez. Là, je veux pas noircir l'un ou l'autre des deux partis. Et moi, d'entrée de jeu, sur le principe, sur le fond, c'est un peu comme la question des transfuges. J'ai pas d'opposition de principe à ça. C'est pas tout le monde qui va en politique avec un projet précis ou avec une adhésion très forte à l'un des programmes proposés.
Mais c'est quand même assez étonnant, tu sais, que tu décides, par exemple, de te présenter pour le Parti québécois, indépendantiste, pour qu'après ça... changer totalement, virer à 180 degrés puis devenir libéral.
C'est là que je m'en vais.
Ouais,
c'est là que je m'en vais. C'est que d'abord, dans le principe, moi, je que des gens veulent faire de la politique pour être députés, représenter leurs concitoyens, faire avancer les choses sans avoir un projet précis. Donc, qu'ils puissent magasiner leur parti pour choisir celui qui leur donne le plus de chances d'être élu, ça me va. Il y a des gens aussi qui veulent aller en politique avec un projet précis, mais qui est le leur et dont ils se croient capables de vanter les mérites dans un parti ou un autre, ou en tout cas dans plus qu'un parti. Ça aussi, ça me va. Maintenant, effectivement, si tu passes du parti souverainiste au parti fédéraliste, ça soulève des questions quand même sur tes convictions. Quoique, encore, supposons que pour elle, la question de la souveraineté ne soit pas centrale, même peut-être pas importante, ben, ça peut se faire encore de passer d'un parti à l'autre. Et là-dessus... faut dire une chose, là. Le Parti québécois est celui, à l'heure actuelle, dans tous les partis, qui a le plus de chances d'avoir comme ça des candidats qui sont pas si proches que ça de son option fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il est, pour l'instant, le candidat le plus possible ou probable au pouvoir, même si c'est loin d'être fait. Mais ça lui attire énormément de candidatures. Et les gars, c'est pas d'hier que dans les... Et là, je parle pas du chef, puis des instances, puis des militants. Je parle de ceux qui veulent se présenter comme candidats. C'est pas d'hier qu'au PQ, il y en a une partie qui ne sont pas des fervents indépendantistes. Il y a des gens qui vont là, des fois parce que le PQ est au centre-gauche, puis ça leur plaît, c'est ça qu'ils veulent, pour toutes sortes de raisons, ou parce qu'il est candidat au pouvoir, comme à l'heure actuelle. Alors, ils vont là, ils font la profession de foi, oui, la souveraineté, tatati, tata, mais finalement, c'est pas leur projet moteur. T'sais, ils sont pas contre ça, mais c'est pas ça qui les motive. Et ça a pas commencé aujourd'hui là, pour les péquistes. Alors, tout ça peut expliquer ce que fait Mme De Geer. Maintenant, il va falloir qu'elle réponde à des questions.
Ah, ben oui.
Elle va être bien obligée de nous expliquer comment se fait qu'elle a changé d'idée. Et là-dessus, ça peut même être un avantage pour Charles Milliard. Si c'est joué correctement, il peut dire, vous voyez, Mme De Geer réalise que c'est pas le temps, là, la souveraineté avec Donald Trump, l'économie, ceci, cela. Donc, c'est loin d'être clair que c'est un gros problème pour les libéraux. Puis pour les péquistes, ben c'est une invitation à se rappeler qu'effectivement, ils sont pas toujours dans la pureté idéologique. Puis une autre chose qui encourage ça, je termine là-dessus, c'est que le PQ fait une disjonction. Le PQ, c'est deux propositions en même temps. Ça a toujours été ça. C'est le bon gouvernement, d'une part, et de l'autre, l'hypothèse d'un référendum sur la souveraineté. Et Paul Saint-Pierre Plamondon aime toujours rappeler que on a 4 ans devant nous, on va voir comment ça va, et on ne fait que poser la question. Alors, quelqu'un qui n'est pas super motivé pour l'indépendance du Québec peut vivre avec ça si lui, il y a d'autres raisons pour lesquelles il veut aller se présenter au PQ.
Mais il y a deux choses. Il va d'abord falloir, pour que Charles Milliard puisse en profiter, il faudrait déjà qu'il sorte des boulamites, parce que pour l'instant, c'est où est Charlie, là?
Exactement.
Ça aurait pu... Ça aurait pu être bon aussi.
Il essaye fort, hein, je suis de retour, Nick. Il essaye fort, Charles, quand même, d'appareil. Tu sais, il patine, il est là, mais le monde ne le regarde pas, il ne regarde pas de son bord.
Mais il est arrivé trop tard. Les libéraux ont eu une idée qui n'a aucun sens de rester pas de chef définitif pendant des années puis de le choisir à la dernière minute, avant un an avant l'élection. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a eu une prolongation là, à cause de l'histoire de Pablo Rodriguez, mais c'était très tardif. Et d'autant plus pour un chef novice que le monde connaît moins. Là. Pauvre Milliard, ça va être très difficile là, de revenir de l'arrière, en fait.
Y es-tu bien entouré, Charles Milliard? Parce qu'il y a un passé en relations publiques, il a travaillé chez National. C'est censé être quelqu'un qui, de facto, sur papier, théoriquement, serait capable de gérer les médias puis la place médiatique qu'il occupe dans ceux-ci. Mais j'ai l'impression qu'à chaque sortie qu'il fait, ou à peu près, là, c'est ce qu'on peut constater d'un œil extérieur, il se met les pieds dans la bouche. Y es-tu bien entouré?
Bonne question. Et puis, tu sais, il veut être premier ministre. C'est pas pareil comme faire des relations publiques à titre de patron de la Chambre de commerce de ci ou ça. Là.
Vraiment
c'est
pas.
Un gros, gros, gros morceau. Puis, il a gaffé, entre autres parce que son autorité semble pas très bien assise dans son parti. Là. Alors, ça le fait patiner souvent puis pédaler, être assis entre deux chaises. On l'a vu avec... tu sais, l'histoire de Marois Risky, ça a été plus difficile qu'on le croit, là. Puis toutes
ça a laissé des traces. Yes.
Oui, oui, oui. Et les reculades sur la langue, les valses hésitations, disons, parce que le caucus du West Island n'est pas d'accord et tout ça, ça a été compliqué. Alors, il fait des gaffes, son autorité n'est pas solide, mais aussi, en politique, pour quand tu aspires à un poste comme celui-là, le président, le premier ministre, faut que tu aies un peu eu le temps de rentrer dans la famille qu'on te connaisse, que t'as fait des gaffes, mais que t'as aussi bien paru, puis qu'on soit habitué à toi, là. Il n'est pas rendu là, Milliard. Le niveau de confiance n'est pas au meilleur.
Il y a bien du monde qui va en prendre à le découvrir, rendu au débat des chefs, là.
Exactement, c'est-à-dire quelques jours avant le vote, dans le fond. T'sais.
Parce qu'on s'entend que le phénomène de renouveau a duré un mois. Lui, il a été placé là, il a été couronné à la fin du mois de février. Puis déjà au début avril, ma tante arrivait. Donc, lui, il a comme eu un mois comme étant la saveur du moment. Mais ça a vite passé. Là. Christine Fréchette a pris la place, a tout pris la disponibilité des pages politiques dans les différents médias. Puis
y compris politiquement, y compris dans la substance, dans le contenu politique, en bonne partie. Puis en plus, pour pas aider Milliard, c'est un produit de remplacement. Vous êtes trop jeune, vous autres, pour être allé chez Distribution aux consommateurs.
Non, je suis pas trop jeune, je suis allé.
OK. Tu cochais ton affaire dans le catalogue, puis là, il arrivait au comptoir. Voici un produit équivalent parce qu'on n'a pas l'autre.
Il mettait ça dans des tubes, hein, te souviens-tu?
Oui.
Poup, ça partait d'un tube, là, ça arrivait, puis tube, on venait pour te dire qu'il restait plus ce que tu voulais, parce qu'il restait jamais ce qu'on voulait.
On n'avait plus le produit Candle, mais on avait le produit telle autre sorte, exact. Qui était formidable. Il n'était pas formidable, en fait. Et en tout cas, c'était pas celui que tu voulais. Fait que, les libéraux, ils voulaient, tout le monde le sait qu'ils voulaient Rodriguez, puis là, finalement, c'est le deuxième choix qui est couronné. Ça aide pas, ça non plus. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de grosses bouchées à prendre pour M. Milliard. Puis pour le moment, disons qu'il nous fait pas un PSPP. PSPP partait de très loin, lui aussi. Et puis, il était d'une certaine façon dans une meilleure posture. Il était tellement le négligé qu'on n'attendait rien de lui. Et puis là, il a compté une série de buts faciles ou pas. Je sais pas, l'histoire du serment au roi, c'était un gros... fallait du front quand même. Mais il a compté des buts, en tout cas.
Oui.
Et il s'est installé tranquillement dans notre conscience, et dans notre portrait politique collectif, et on l'a accepté.
Mais Charles Milliard, il n'y a même pas encore un tir cadré. Là.
Non, c'est ça, exactement.
Ça devient tough.
Il fait du dumping au fond de la zone.
Nick, cette semaine, puis ça donne de même, là, mais les Autochtones sont beaucoup dans l'actualité. On parle de lutte contre le crime organisé. On parle des Autochtones en Alberta qui veulent avoir leur mot à dire dans le discours séparatiste. Puis il y a également l'histoire où on demande de criminaliser, en fait, le négationnisme autochtone.
Écoute, ça, c'est assez extraordinaire. Puis tout ça porte la marque de l'époque woke. Hein? Il y en a qui vont nous chicaner de prononcer ce mot-là, mais si vous trouvez une autre étiquette, c'est celle-là, vous ne faites pas votre affaire, là, mais on parle bien de la philosophie, puis des méthodes et des théories, puis des thèses qui viennent avec ce qu'il y a de plus abouti à gauche en ce moment. Là. Donc, On prend, entre autres, une des méthodes là-dedans, c'est de prendre des mots très forts, racisme, viol, génocide, et le reste, et d'en élargir le sens pour ensuite les coller dans le front de toujours plus de monde. Là, ici, on revient avec l'idée que les pensionnats autochtones, on a trouvé les fameuses sépultures, là, les fameux cimetières d'enfants, et qu'il y aurait là-dedans, notamment à Kamloops, là, 215 enfants enterrés anonymement. Le problème, c'est que on n'a rien trouvé à ce jour. À toute fin pratique, là, rien. En fait, on est de retour à ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait des cimetières institutionnels à côté de ces pensionnats-là, comme il y en avait d'ailleurs à côté des institutions psychiatriques, les hospices, les pensionnats où ont été les orphelins de Duplessis, notamment. Et ce qu'on sait aussi, c'est que on ne s'occupait pas toujours très bien de ces enfants-là, puis il y en a plusieurs qui sont morts et qui ont été enterrés là. Ça, c'est vrai. Mais l'idée des fameuses fosses communes et autres volontés de génocide et tout ça, ce n'est pas du tout démontré. Là. Il est temps quand même de le dire. Et ce que, ce que je viens de dire là, mais là, c'est plus seulement raciste, c'est du négationnisme. Et les Autochtones réclament maintenant là, qu'on criminalise, un peu comme la négation de l'Holocauste, négationnisme sur ces questions-là, sur la question des pensionnats. Et là, on pousse fort, puis on pousse trop fort. Il doit être possible de se rappeler et même d'avoir honte et d'être scandalisé par ce qui s'est produit dans les pensionnats autochtones, sans pour autant empêcher le monde de dire bien, c'était peut-être pas un génocide au sens où on voulait faire disparaître physiquement un peuple, là. C'est plus compliqué que ça. Alors voilà. Là. Et puis, on peut peut-être pas parler de fosses communes. C'est peut-être plutôt des tombes anonymes parce qu'on, oui, on s'en foutait un peu. Mais il faut, je veux dire, à un moment donné, on les a pas trouvées, là, les 215 sépultures à Kamloops. C'est pas une seule, en fait. Et l'excuse là, pour ça, c'est de dire « Ah, ben c'est parce qu'on veut pas trop chercher parce que c'est contre nos traditions. » Oui, mais là, OK, d'abord, mais peut-être que en ce cas-là, si on ne peut pas avoir de preuves, on va pas commencer à interdire dans la loi le doute. Ça va faire.
Oui, c'est particulier. Hein? C'est ça, avec toutes les règles sur lesquelles on veut surveiller les histoires sur les médias sociaux, on s'en va de plus en plus vers. On va être surveillé en tout temps. Là.
On a complètement oublié la valeur de la liberté d'expression, comment ça a été chèrement acquis, à quel point on est chanceux d'avoir ça ici, puis c'est vraiment pas le cas partout dans le monde. Même dans les pays d'Occident, tous ne sont pas égaux dans la capacité, la possibilité que le citoyen a de dire tout ce qu'il veut quand il veut. Ici, on est très chanceux là-dessus, puis là, on joue avec ça comme si c'était rien.
Oui, non, effectivement.
Pas important. Ça suffit, là, les demandes de... Si vous n'êtes pas capable d'endurer que des gens remettent en question même parfois des faits, puis ensuite on pourra les critiquer puis les descendre en flammes si on veut, mais si vous n'êtes pas capable d'accepter même qu'on remette en question vos théories puis vos thèses puis vos réclamations militantes, ça va pas, là.
Voilà.
Allez vous instruire un peu, vous cultiver, puis vous reviendrez plus calme après.
Bien, c'est tout. Je pense un peu comme toi là-dessus. T'sais, quand t'as pas de preuves, ça devient difficile de dire, de criminaliser le monde qui dit que, ben, qui questionne en fait ta théorie.
Exactement. Là, assume dans ce cas-là. Puis encore une fois, je tiens à le dire. C'est pas chic, les pensionnats autochtones.
C'est dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse ce qui s'est passé.
On peut parler d'un génocide culturel à certains écarts.
On a changé des noms de famille.
Exact.
On a livré des jeunes enfants en pâturage à des membres du clergé. C'est dégueulasse ce qu'on a fait. Ça,
mais tu vois, on a ouvert la porte. Je suis obligé de réagir à ça. Génocide autochtone, l'engrenage a commencé là. Pas autochtone, pardon, culturel.
Ouais.
Parce que c'était déjà une formule pour frapper l'imaginaire puis abuser un peu des mots. Un génocide culturel, ça n'existe pas vraiment dans le dictionnaire parce qu'un génocide, c'est un génocide, là. C'est faire disparaître physiquement du monde. Alors, on aurait pu parler d'assimilation forcée, d'effacement de la culture, tout ça, mais c'était pas assez fort. Fallait que ça ait l'air
encore. Ça prenait le gros mot. Le gros ouais. mot. Le gros
maintenant,
mot.
On est pris avec. Et là, qu'est-ce qui va arriver après? Toutes les minorités en concurrence les unes avec les autres vont se réclamer toujours de sévices plus graves, puis le génocide, puis à Waïdon. Puis à un moment donné, quand on sera plus capable d'en nommer un vrai quand il va en avoir un. Là. J'en souhaite pas, évidemment, mais ça banalise beaucoup. Il y a des peuples qui ont vécu de véritables génocides qui, aujourd'hui, doivent la trouver moins drôle aussi.
Oui, il y a ça aussi. Hey, je te remercie infiniment, Nick. Ça fut encore une fois super, une super chronique. Puis moi, je m'en vais en vacances pour 2 semaines. Là.
Ah, ben profites-en bien.
Puis on va peut-être se reparler, mais que je revienne début août.
Avec plaisir. Salut, les gars.
Salut, Ben. Merci pour l'été. C'était parfait. Nick Payne, à qui on parlait. On a parlé à Nick à tous les jeudis depuis le début de l'été. C'est juste parfait. J'ai pensé, pourquoi je ne peux pas finir la chronique, les gars?
Oui.
Ah, t'es parti en soubresaut.
Parti en trombe. On s'est dit, ça y est.
Tu sais, quand il faut y aller, il faut y aller.
Voilà.
j'ai vraiment vécu quelque chose d'hallucinant. C'est la première fois. Je me suis dit, si j'avais fait de la TV en direct, il serait passé quoi, hein?
T'aurais été viral.
Possiblement que j'aurais été viral.
Ah, c'est sûr.
C'est la première fois en 10 ans que ça m'arrivait. Mais il a fallu que je sorte. J'ai quitté. Ray était mort de rire dans le corridor. J'ai dû m'absenter.
C'est ça, vieillir, hein?
Non, ça n'a pas été facile. Hey,
mais si t'habitais, ça arrive sud, tu pourrais avoir une subvention pour des couches.
Ah, tu vois? Merci.
Ah,
merci.
Ben voilà, c'est tout ce que
est
ça
là.
Prend.
Tout est là, je pense que ça n'aurait pas suffi.
Ça déborde, c'est bon, hein?
8h37, on parle à Ray au retour.
Morel.
Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.